mécanismes sont intimement liés à la circulation de l'eau dans l'arbre. Et donc c'est ce que je vais vous présenter. Comment ça circule et puis comment parfois ça s'arrête de circuler. J'ai associé mon collègue Hervé Cochard à cette présentation, qui est aussi un chercheur INRAE, qui ne peut pas être là aujourd'hui, mais beaucoup des diapos que je vais présenter en fait sont issus de ses présentations à lui, qui travaille sur ce sujet depuis plus longtemps que moi, et donc on travaille ensemble en collaboration. Ça marche comme ça. Voilà. Donc ça, vous le savez déjà, mais je le rappelle, hein, on observe beaucoup de dépérissements forestiers ces dernières années. Donc là, c'est des illustrations ici. Et ici, on peut voir une figure extraite du numéro de 2021 de l'IFE, là, le rapport de l'IGN annuel, sur lequel ils ont représenté, grâce à l'inventaire forestier national, le volume de bois mort de la période récente, ici, sur l'ensemble de l'inventaire forestier, en fonction du volume de bois mort sur la période passée 2003-2010, avec une droite de stabilité qui est au milieu. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'en période récente, on a beaucoup plus de volume de bois mort pour différentes espèces. Hein. C'est quelque chose qui est vrai donc à l'échelle nationale. On connaît bien la crise du scolyte, ça se voit ici avec l'épicéa, hein, mais aussi le châtaignier, d'autres espèces. Donc ce phénomène-là, hein, qu'on observe en France, c'est un phénomène qui en fait est global, et donc de nombreux articles scientifiques ont pu montrer qu'on a des augmentations de dépérissement, de mortalité d'arbres à travers le monde, comme on le représente sur cette carte, avec différents spots enregistrés dans un peu tous les biomes en fait, et avec une augmentation qui semble liée aux événements de sécheresse et de canicule. Donc en réalité, le dépérissement forestier, c'est un mécanisme qui est compliqué. Vous connaissez peut-être cette spirale du déclin de l'arbre, qui explique que le déclin, il est lié d'un arbre, il est lié à de nombreux facteurs, à des facteurs génétiques tout d'abord de l'individu, et puis des facteurs prédisposants, donc génétiques, qui sont aussi des facteurs stationnels, et puis petit à petit, on arrive à des facteurs aggravants qui peuvent être climatiques ou d'origine biotique. Et qui, enfin, petit à petit, vont pouvoir mener à la mort de l'arbre. Donc voilà, ces facteurs sont nombreux. On connaît bien, par exemple, le typographe là, qui est responsable de la mortalité de l'épicéa, mais aussi des chancres, la calarose du frêne qui agit en ce moment. Mais par-dessus tout cela, voilà, ce que j'évoquais, c'est le risque de sécheresse et de canicule qui augmente beaucoup avec le changement climatique et qui vient aggraver tous ces risques lorsque on a des sécheresses sévères, comme l'an dernier, par exemple. Donc la question qu'on se pose dans nos recherches, c'est pourquoi les arbres souffrent de sécheresse. Et une des réponses a déjà été donnée dans les présentations précédentes, c'est d'une part que les arbres consomment beaucoup d'eau. Enfin, ils consomment de l'eau, ils ont besoin de l'eau, et donc je ne vais pas revenir sur le bilan hydrique, hein, avec la transpiration de l'arbre, je ne vais pas revenir dessus dans le détail. Ici, quelques chiffres seulement, des exemples de niveaux de transpiration journalière pour différentes espèces qui ont pu être mesurées, et pour ces différentes espèces, on a des classes de taille. Là, on voit que les volumes d'eau par jour transpirés peuvent aller de 10 à quasiment 200 litres ici pour les espèces, donc voilà, c'est des quantités considérables. Donc pourquoi les arbres consomment autant d'eau, hein, c'est la question suivante qu'on peut se poser. Et donc une des réponses, elle tient dans la physiologie foliaire, qu'on n'a pas beaucoup évoquée encore aujourd'hui, mais donc, ce qu'il faut savoir, c'est déjà par où, comment est constituée une feuille. Donc une feuille, si on la coupe comme ça, ça ressemble à ça. Donc on a des orifices ici qui s'appellent les stomates, ces petits trous. Et donc ces stomates servent à faire la photosynthèse, donc à absorber le dioxyde de carbone atmosphérique. Hein, c'est la pompe à carbone qui permet de faire des sucres et de faire la croissance à travers le processus de photosynthèse. Et donc en fait, ces mêmes trous là qui autorisent l'entrée du dioxyde de carbone sont aussi les mêmes trous qui font sortir de l'eau et qui autorisent la transpiration stomatique ici. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que le rapport de l'un en fonction de l'autre, une autre forme de transpiration, qui est quand même importante, on le découvre dans nos recherches de plus en plus, c'est ce qu'on appelle la transpiration cuticulaire. Elle est faible en quantité, mais elle peut être importante en tant que processus parce que, vous le verrez, c'est elle qui joue lors des sécheresses. Donc ce qu'il faut savoir en tout cas, c'est que le rapport entre la quantité, le nombre de molécules d'eau qui est évaporée et le nombre de molécules de dioxyde de carbone absorbées est très défavorable à l'eau, puisqu'on a une molécule absorbée pour environ, ça dépend des espèces bien sûr, c'est très variable, mais environ 400 molécules transpirées. Et donc, il y a plusieurs conséquences, c'est que d'une part il faut consommer beaucoup d'eau, et d'autre part qui on a besoin d'un système hydraulique très performant pour acheminer l'eau jusqu'à ses stomates. Donc c'est une partie de la réponse, c'est le besoin. Pourquoi les arbres ont besoin d'eau? Une partie de la réponse est ici. Et pourquoi sont-ils sensibles à la sécheresse? La réponse vient d'autres processus encore, c'est comment c'est cette transpiration. Donc cette transpiration, il faut imaginer que l'eau circule grâce à une sorte de gradient de pression. On peut imaginer que ce gradient de pression est passif et que l'atmosphère, c'est un peu comme des shadocks, comme ça, qui pompent une colonne d'eau passivement. Enfin, le processus est passif parce que c'est porté par l'atmosphère, ce n'est pas l'arbre qui dépense de l'énergie pour transporter cette eau. Ce gradient de pression, plus précisément, c'est un gradient de potentiel hydrique, c'est-à-dire c'est la pression qu'il faut exercer sur les tissus ou le sol pour extraire de l'eau. Donc ça prend une valeur négative, c'est un peu barbare comme ça, mais on observe un gradient avec les sols qui sont souvent, quand ils sont pleins d'eau, ont une valeur proche de zéro, il ne faut pas exercer beaucoup de pression dessus pour extraire de l'eau. L'arbre est un peu plus négatif, donc il exerce une petite pression, ici environ 1 mégapascal, et l'atmosphère, lui, est généralement sec et il exerce une grande pression. Et donc ce gradient ici permet la circulation de l'eau. Et donc c'est des choses qu'on peut mesurer. On peut mesurer la transpiration, au même titre qu'on peut mesurer ses potentiels hydriques. Donc je l'illustre ici avec des données qu'on a prises sur le site de Fontblanche qui a été évoqué ce matin. Donc c'est la transpiration qui est mesurée au cours d'une journée sur un pin d'Alep d'ailleurs. Donc c'est une vitesse de sève ici. Et au fur et à mesure de cette journée, on peut aussi mesurer le potentiel hydrique, et donc on voit que le potentiel hydrique, ça c'est celui du sol que j'ai mis ici, il est à zéro, presque à zéro mégapascal, donc l'eau est presque libre, elle n'a pas besoin d'exercer beaucoup de pression pour extraire de l'eau, et puis l'arbre ici donc exerce a un potentiel hydrique qui est plus négatif, et la différence c'est ce qui est le moteur de la circulation de cette eau, de la transpiration. Donc ça c'est en condition quand tout va bien. Et puis, en fait, quand le sol se met à sécher, le potentiel hydrique devient plus négatif et il faut exercer une pression plus grande, une tension en fait plus grande pour pouvoir absorber de l'eau. Donc c'est de là que vient le problème de stress hydrique. Et l'arbre face, donc si le potentiel descend ici à moins 1 mégapascal, donc il faut tirer plus fort, lui il se met à moins 2 pour pouvoir avoir un gradient et pomper de l'eau. Et ça va entraîner une succession de réactions physiologiques. La première réaction que ça entraîne, c'est ce qu'on appelle la fermeture des stomates. Donc les orifices que je vous ai montrés tout à l'heure à la surface des feuilles se ferment, et ça conduit à une diminution de la transpiration. Donc ici, on compare la transpiration d'un traitement séché, d'arbres qui ont arrêté d'irriguer, avec un traitement contrôle qu'on a irrigué. On voit bien que la transpiration, chaque jour, diminue un peu plus sous l'effet de la fermeture de ces stomates. C'est une réponse directe au potentiel hydrique qui diminue. Ensuite, bien sûr, cette fermeture, ça entraîne un arrêt de la photosynthèse, une diminution de la photosynthèse, donc la pompe à carbone ralentit. Et l'arbre, malgré tout, à cause de cette transpiration cuticulaire, continue de perdre un petit peu d'eau, ce qui conduit à un potentiel hydrique qui peut continuer de diminuer et un stress hydrique qui peut continuer d'augmenter. Donc la phase suivante, c'est ce phénomène dont vous avez sûrement déjà entendu parler, le phénomène de cavitation. On continue de sécher et qu'il faut tirer encore plus fort sur cette colonne d'eau peut se briser sous le phénomène de cavitation. En fait, c'est la vaporisation de la sève. Cette colonne qui est liquide devient en phase gazeuse, et ça conduit à des embolies, donc à des bulles d'air qui se mettent dans le système vasculaire de l'arbre et qui empêchent les tissus d'être d'être alimenté en eau. Donc c'est un processus irréversible. On peut voir ces bulles d'air. Là on en voit une dans une bulle d'air qu'on a pu voir au microscope là, sur une feuille. Et puis on peut les voir avec des méthodes que j'évoquerai tout à l'heure dans le système vasculaire. On voit des bulles d'air. Ici, c'est le système vasculaire qui est vidé de son eau sous l'effet de la cavitation. Donc ce phénomène de cavitation, on sait depuis, depuis quelques années, décennies maintenant, à quelques années, qu'il est très très lié au phénomène de dépérissement et de mortalité sous sécheresse. Donc là, c'est différentes expériences. Ici, c'est sur le chêne vert. On montre que le déclin du houppier, et qu'on représente en noir là, sur ces chaînes auxquelles on a fait subir un stress hydrique, se met à augmenter quand le potentiel hydrique, ici, atteint des seuils d'embolie. Donc ici, on est à presque moins 7 mégapascales, c'est le seuil d'embolie du chêne vert, et c'est ce qui est associé au déclin des houppiers. La même chose a pu être montrée ici sur des hêtres et des peupliers. Donc on a exprimé le taux de mortalité des arbres en fonction du taux de cavitation qu'on a pu estimer sur ces arbres-là. Et on voit que passer un seuil de 90% de cavitation pour ces arbres, on a un point de non-retour dans lequel les arbres sèchent et puis ne peuvent plus récupérer même une fois qu'on les a réarrosés après. Donc ce phénomène de cavitation a l'air d'être très lié au dépérissement des arbres en conditions de sécheresse. Et ces données qu'on a pu avoir sur des petits individus en peau en conditions expérimentales ont pu être confirmées à l'échelle globale dans une méta-analyse là, qui a été réalisée il y a quelques années par des collègues américains qui ont montré que sur les différents endroits du monde dans lesquels on a pu observer de la mortalité consécutive à des vagues de chaleur ou à des sécheresses, on a systématiquement enregistré des taux d'embolie élevés. C'est ce qu'on voit ici, là, c'est le taux d'embolie ici. Il peut être de 60 à 80% pour tous ces individus-là qui sont morts. Et puis, on a beaucoup moins enregistré de taux de perte de carbone. C'est-à-dire que même si les stomates se ferment et qu'on a moins de photosynthèse, c'est pas tant la famine carbonée qui est responsable que le taux d'embolie. Donc ça, c'est aujourd'hui un consensus hein, qui est de plus en plus accepté dans la communauté scientifique. C'est que c'est vraiment ce phénomène de rupture hydraulique lié à l'embolie qui est responsable donc, du dépérissement. Et donc voilà une première conclusion. Hein. Donc suite à l'embolie, les feuilles, les organes de survie, les bourgeons sont moins alimentés et c'est ce qui empêche aussi la capacité à récupérer quand ces seuils deviennent très forts. Donc si je résume la séquence, donc lors d'une sécheresse, le potentiel hydrique, hein, qui est la pression qu'il faut exercer sur le sol pour extraire de l'eau, a tendance à diminuer, à prendre des valeurs ici de plus en plus négatives. Cela conduit à des réponses de l'arbre. La première réponse, c'est la fermeture des stomates. Mais cette fermeture a beau être totale, les pertes cuticulaires en eau font que le potentiel hydrique continue de diminuer si on n'a pas d'apport de précipitation et qu'il fait chaud. Cela conduit à de nouveaux processus qui sont, par exemple, le dessèchement des feuilles ou la perte des feuilles qui aussi contribuent à moins perdre d'eau. Mais malgré tout, si on n'a pas d'apport de pluie, les cuticules continuent de perdre de l'eau et on a le phénomène de cavitation qui peut intervenir et qui, s'il atteint des seuils élevés, peut conduire à la mortalité. Donc voilà le résumé de la séquence avec bien sûr des phases depuis le confort jusqu'à des risques très très forts pour les arbres. Donc maintenant qu'on sait ça, la question qu'on peut se poser, c'est comment on peut caractériser la résistance au stress hydrique des espèces, et quels sont les moyens, les méthodes qu'on met en œuvre aujourd'hui, et qu'est-ce qu'on sait sur les différences de résistance entre espèces. Donc, en fait, en reprenant un peu ce schéma, la simplifier, on peut voir qu'il y a différents niveaux. On peut jouer déjà sur la résistance à la cavitation, on peut jouer sur la fermeture des stomates, hein, ce sera ça que je vais montrer, et comment ça varie entre espèces. Bien sûr, le premier élément, donc, c'est cette fameuse résistance à la cavitation. Donc, si on exprime le taux de cavitation en fonction de ce fameux potentiel hydrique qu'on peut mesurer sur les arbres, on peut voir, par exemple, ici, ce sont des chênes. On a ici un scan du système vasculaire à nos chênes. On a scanné le système vasculaire grâce à des principes compliqués de tomographie au rayon X. On fait une radio de l'arbre, en fait, une radio en 3D. Et on peut voir qu'ici, ça fait... on a des niveaux de stress hydrique qui sont relativement faibles, pas beaucoup de stress hydrique, on est entre 0 et moins 4 mégapascales, on n'a que 10% de cavitation. La cavitation, l'embolie, c'est les vaisseaux noirs ici, là, qui sont, il n'y a plus d'eau à l'intérieur, ils sont plus conducteurs. on a très très peu de cavitation parce qu'on a peu de stress hydrique. Ici, par contre, on est descendu à moins 8 mégapascales et on a beaucoup de vaisseaux embolisés. Là, c'est quasiment tous les éléments de vaisseau sont embolisés. Donc, en fait, en faisant ça, là, je vous montre deux scans différents, mais on peut répéter la manip sur plusieurs scans et on peut constituer une courbe comme ça. On appelle ça une courbe de vulnérabilité à la cavitation. Donc, à chaque niveau de stress hydrique, on associe un taux d'embolie et on a une courbe complète. Et puis, à partir de cette courbe, on peut définir un point qu'on appelle la P50, c'est le potentiel qui cause 50% d'embolie. Donc ici, elle est égale à moins 7 mégapascales pour cette espèce de chaîne. Et donc, ça, c'est ce que nous, les chercheurs, utilisons de plus en plus pour caractériser la résistance à la sécheresse des espèces ou des individus. Donc, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'on développe des méthodes, hein, pas aussi compliquées que celle-là, pour pouvoir caractériser cette P50 chez des différents individus en collectant des branches, par exemple, sur le terrain. Et puis, on a plein de méthodes qui nous permettent de faire ces courbes. Alors, il y a des méthodes optiques sur les feuilles qui ont été développées par les Australiens, des méthodes pneumatiques développées par les Brésiliens, des méthodes hydrauliques développées par les Français, par Hervé Cochard notamment, là, qui est co-auteur de la présentation. Et puis, bon, des méthodes très compliquées qui nous permettent de visualiser. Mais en tout cas, on a beaucoup de méthodes et on peut faire ça maintenant à relativement haut débit. Et grâce à ça, on peut caractériser, par exemple, la résistance à la cavitation de la flore européenne. Donc, c'est ce qu'on voit ici, c'est la P50, donc le niveau de stress hydrique qui cause 50% de cavitation pour une centaine d'espèces d'Europe. Et puis, on retrouve un gradient de résistance à la cavitation entre des sols ici qui sont relativement vulnérable, et puis, même très vulnérable, et puis le chêne vert ici qui est très tolérant, voire le cyprès commun, et puis des genévriers qui doivent être par là. Et donc quand on exprime cette valeur de P50 de chacune de ces espèces en fonction, par exemple, d'un indice de tolérance à la sécheresse qui est issu de la flore de rameaux, on a des bonnes corrélations, là on voit qu'on a des bonnes corrélations. Si on exprime cette résistance à la cavitation en fonction du temps de survie, alors relatif ici des espèces, on a aussi des bonnes corrélations. Plus on est résistant à la cavitation, plus on vit longtemps. Donc voilà un premier indicateur de comment on peut caractériser la résistance. Mais bien sûr, les choses ne sont pas si simples que ça. Alors ça, c'était vraiment le consensus des années 2010, un petit peu la résistance. Et maintenant, on voit qu'il y a d'autres éléments qui interviennent. Donc je vais vous donner un exemple rapide. Donc si on compare un chêne vert et un pin d'Alep, qui sont tous les deux très résistants à la sécheresse, donc le chêne vert est ici, ils ont chacun leur P50, alors celle du chêne vert est de moins 7 mégapascales, celle du pin d'Alep est de moins 5 mégapascales. Donc selon ces courbes-là, le pin d'Alep serait plus sensible à la sécheresse que le chêne vert. Ce qui pourtant n'est pas vraiment le cas, hein, on retrouve le pin d'Alep dans des zones très, très méridionales. Donc une partie de la réponse vient... Pourquoi on a ce résultat-là? Une partie de la réponse vient du contrôle stomatique. Donc c'est ce que j'ai mis ici en bleu. Ici, c'est non plus la cavitation, mais c'est le contrôle d'estomac de la transpiration. Donc ça représente la baisse de la transpiration en fonction du stress hydrique. Donc ce qu'on voit, c'est qu'en fait, le chêne vert contrôle beaucoup moins sa transpiration que le pin d'Alep ou lors d'une sécheresse. Donc le chêne vert peut maintenir sa transpiration plus longtemps. Le pin d'Alep contrôle beaucoup plus rapidement, donc il économise de l'eau. Et c'est ce qui fait que même avec une P50 relativement plus élevée, donc moins résistante, il arrive à survivre aussi très très bien à des sécheresses. Donc c'est juste illustratif, bien sûr. Ça, on pourrait aussi le mesurer sur plein d'espèces. Mais ça montre que le consensus de la résistance à la cavitation, qui était celui qui dominait jusque dans les années 2010-2020, et maintenant, on voit que les choses sont plus compliquées. Et donc, la résistance à la sécheresse, c'est caractérisé par la résistance à la cavitation d'une part, mais aussi à beaucoup d'autres éléments qui rentrent et qui définissent les stratégies des espèces. Donc on a par exemple les stratégies d'esquive complètement de la saison sèche. Donc on ne sait pas beaucoup pour les arbres forestiers, mais c'est les espèces annuelles par exemple qui font tomber complètement leurs feuilles pendant une sécheresse. Puis pour les espèces qui sont exposées à la sécheresse, comme les arbres, eh bien on a des stratégies d'évitement qui vont être liées au contrôle stomatique de la transpiration, donc j'en parlais à l'instant, mais aussi du fait de prélever de l'eau en profondeur. C'est ce que Simon nous montrait précédemment avec des chaînes capables de prélever en profondeur. On peut aussi être très tolérant en développant une forte résistance à la cavitation. Donc en fait, le schéma global de comment les arbres répondent à la sécheresse est plus compliqué que seulement la cavitation. Il y a d'autres éléments, hein. Donc voilà, le contrôle stomatique, la profondeur racinaire, qui vont venir s'articuler autour de cette résistance à la cavitation pour définir la résistance à la sécheresse. Donc voilà, j'en ai un peu fini avec là où on en est, hein, des recherches aujourd'hui. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que les arbres ont besoin d'eau, hein, pour transpirer et pour leur, pour leur métabolisme, que cette transpiration est passive et se fait grâce à un gradient de potentiel hydrique qui est une pression négative. Lors d'une sécheresse, on a une succession de réponses. Les arbres commencent par fermer leurs stomates pour limiter la transpiration, éventuellement perdre leurs feuilles ou limiter la croissance des feuilles pour aussi limiter la transpiration, puis après ils cavitent. La résistance à la cavitation est déterminante de la résistance à la sécheresse, mais vient s'articuler avec d'autres caractères, comme le contrôle stomatique, la profondeur racinaire, la surface foliaire. Donc tout ça, ça paraît assez compliqué, mais ce qu'on peut faire aujourd'hui et ce qu'on fait de plus en plus, c'est qu'on arrive à intégrer toutes ces informations dans des modèles de calcul numérique qui seront présentés demain, je pense, dans la session outils, qui arrivent à prendre en compte tous ces caractères, ainsi que le climat, ainsi que le sol, pour prédire la résistance à la sécheresse des espèces dans des endroits donnés. Donc j'en parle pas du tout aujourd'hui, mais je pense que demain on en parlera. Il y a un livre qui a été publié récemment, l'an dernier, par François Courbet, qui et puis nous aussi, il y a Jean-Marc dedans, il y a Claude et moi, on a participé, et qui rappelle l'essentiel des éléments là, que je viens d'évoquer, qui explique les mécanismes et où en est la recherche sur les mécanismes pour mieux adapter les forêts au changement climatique. Je vous remercie.
Merci Nicolas. Donc tu as fait la